Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 21 juillet. Petite journée pluvieuse. Ben, idéal pour nous écouter parler de voyage, de nature et de science. Hein?
Ben oui,
vous permettra de rester avec nous.
Puis là, on a une voix que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendue.
Ah oui, il y a une voix qui nous revient.
Vous n'allez pas l'entendre pour longtemps.
Alors, bienvenue André. André-Étienne qui est avec nous. Et puis Yvan, bien sûr.
Bonjour à vous tous.
Les vieux fidèles. Et de quoi on parle aujourd'hui?
Alors écoutez, on est à la radio, donc je vais vous parler du langage, mais du langage des animaux. C'est un article de Science et Avenir. En deuxième partie, je vais vous parler d'un sujet qui est très préoccupant à Montréal particulièrement, la grille du frêne et les pièges de champignons. Et si j'ai le temps, je vais vous parler de l'atout carbone. Je ne suis pas sûre. En tout cas, on va voir. Alors, à tout à l'heure.
OK. Puis moi, de mon côté, je vous emmène faire un tour à Glasgow.
Glasgow.
Oui, pas New Glasgow, le Glasgow.
Un climat un peu comme ce qu'on a actuellement,
oui,
avec de la pluie.
Bon, on va se sortir une bonne bière, puis ça va tout être réglé. Puis après ça, je vous amène voir des aurores boréales.
Ah, c'est magnifique.
Oh, waouh,
magnifique.
Et toi, Michel?
De mon côté, je vais vous entretenir à propos des loups. Vous savez, les loups ont une mauvaise réputation, hein? Mais qu'en est-il? Des loups, un petit peu, des loups à la chasse particulièrement. Puis, je vous ai parlé des grandes structures dans le monde, particulièrement, vous vous rappelez de la tour de 1 km.
Oui,
ce sont des structures
qui
sont actuellement en construction, des choses incroyables. Et aujourd'hui, je vais vous parler du plus gros paquebot du monde, qui est actuellement en construction et qui sortira quelque part en 2016.
OK.
Oh, vous restez avec nous, hein, vous allez savoir plein de choses.
Eh bien, donc, je vous avais promis de vous parler donc, du langage, et c'est à partir d'un article, un hors-série de Science et Avenir du mois d'avril-mai, et c'était le génie des animaux. Il n'y a pas d'auteur, c'est un dossier. Alors, bon, on le sait, les mammifères marins communiquent tous azimuts, mais pas seulement les mammifères marins, les étourneaux aussi, les perroquets également, et bien sûr les babouins. Alors, bon, bavards, les mammifères marins le sont assurément et sont capables de performances absolument ébouriffantes, mais on pourra ajouter quelques précisions. Cependant, je voudrais commencer avec les étourneaux qui sont capables de chanter, entre guillemets dans l'article, avec l'accent.
On les voit sur les fils électriques parfois. Oui. Qu'est-ce qu'ils se racontent exactement?
Oh, ils se racontent un millier de choses. Mais ce qu'il faut savoir avant... c'est qu'avant 1980, on ne savait rien sur le langage des étourneaux. Bon, à cette époque, il y a une chercheuse qui finit par étudier leur chant et qui découvre que leurs talents d'imitateur prennent trois formes.
Ah.
Alors, la première, d'abord, ils copient leurs voisins. Bon, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Ensuite, ils copient l'environnement. Par exemple, lorsqu'il y a des travaux dans les villes, ils reproduisent le son du marteau-piqueur. Ils reproduisent ceux des téléphones portables. Ça, ils sont adaptés avec le temps, n'est-ce pas?
Parce que
ça n'a pas toujours été.
Ça peut créer des situations assez drôles.
Assez, n'est-ce pas? Ils reproduisent le son des signaux de feu. Ils reproduisent aussi dans les marais, par exemple, le coassement des grenouilles ou dans un stade, le sifflet de l'arbitre. Donc, copie l'environnement. Et puis, la troisième forme, disons, c'est qu'ils pratiquent ce qu'on appelle l'initiation sifflée. C'est-à-dire qu'ils émettent des sons qui ressemblent à ceux produits par d'autres espèces qu'ils ont côtoyées. Une buse, par exemple.
Comme pour se moquer des autres.
Par exemple, voilà. Alors, il y a un autre constat qui est intéressant en termes d'études du langage, c'est qu'ils enrichissent en permanence le chant qu'ils ont appris. Et par ailleurs, les chercheurs ont constaté que des groupes unisexes interagissent beaucoup. Ils se reconnaissent entre individus, et quand un oiseau entend une variante d'un thème, il répond avec le même thème. Par exemple, donc, si deux copains vont partager un chant qui leur est propre, ils vont s'imiter, se reconnaître, même s'ils ne se voient pas. Donc, vous voyez que pour que l'apprentissage fonctionne, il faut absolument une interaction sociale. Et si on isole un oiseau et qu'on lui fait entendre des vocalisations, il ne saura pas leur donner de sens et il les utilisera n'importe comment. D'ailleurs, les recherches sur l'activité cérébrale de l'étourneau confirment le lien qui existe entre activité sociale et capacité de langage. S'il est perturbé, certaines structures de l'encéphale, qui sont importantes pour percevoir les vocalisations, seront désorganisées. Et il en est de même si les étourneaux n'apprennent qu'entre jeunes. À ce moment-là, leur chant est moins bon que ce qu'ils acquièrent au contact d'un adulte.
Mais André, explique-moi, pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie à faire de la recherche sur cette espèce?
Ben, j'allais l'expliquer justement. C'est parce que... Ouais. C'est parce que... C'est vrai que c'était intriguant. Là, je voyais l'article sur les étourneaux qui était immense dans ma revue, là. Et puis, sur d'autres thèmes, les articles étaient très courts. Je me disais, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'on s'interroge tellement sur l'étourneau? Alors donc, c'est parce que, pour répondre à la question, c'est parce qu'au niveau vocal, il existe, vous allez être surpris, hein, davantage de parallèles entre l'oiseau et l'homme qu'entre les primates non humains. Je veux dire que quand j'ai vu ça, je l'ai souligné pour insister là-dessus. Bon, chez le bébé singe, le cri est prédéterminé, même si des influences sociales le modulent par la suite, alors que l'humain et l'oiseau, on l'expliquait tout à l'heure, ont besoin de construire petit à petit, de s'entendre pour améliorer leur performance. Chez eux, donc, les échanges sont primordiaux et il est plus facile de mener certaines recherches chez l'oiseau que chez l'homme, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Donc, il a d'ailleurs été démontré que si dans un groupe, le ratio jeune-adulte est trop déséquilibré, deux adultes versus, par exemple, sept jeunes, les jeunes apprennent moins bien que dans un groupe avec un ratio équilibré et sont plus agressifs. Et par ailleurs, un jeune qui n'a pas de contact direct avec un adulte ne produira pas un chant normal et présentera en outre un déficit auditif. Alors cela peut nous donner des pistes de réflexion pour l'homme, n'est-ce pas?
Mmh, oui.
Alors maintenant, continuons avec les orques. On va changer donc de milieu. Ils communiquent essentiellement par des appels pulsés et leur chant, qui est loin des gazouillis ou caquettements des dauphins, évoque davantage des cris un peu angoissants des oiseaux marins. Pourtant, il semblerait que leur chant évolue en présence d'espèces étrangères. Et pour en avoir le cœur net, des chercheurs ont fait cohabiter dans un grand bassin trois orques et des grands dauphins en enregistrant leurs émissions sonores pendant plusieurs mois. Ils ont ensuite comparé ces émissions avec celles de sept orques qui partageaient un autre bassin. Le résultat, c'est que le registre vocal des trois premiers a évolué se rapprochant de celui des dauphins. Donc les orques sont capables d'apprendre le langage des dauphins.
Mmh.
Et plus étonnant, ils ont même appris à reproduire une séquence vocale qu'une dresseuse avait auparavant enseignée aux dauphins. En conclusion, donc, cette capacité d'imitation témoigne d'une grande plasticité des circuits neuronaux aptes à incorporer de nouvelles informations. Bon, je voulais vous parler des dauphins, mais je ne sais pas si j'ai trop le temps, alors peut-être que je vous reviendrai avec une petite brève
mais
tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Ça sera tout à l'heure.
À tantôt.
Toujours dans le domaine des animaux, on revient maintenant cette fois avec les loups à la chasse. Mathieu Perrault nous en parlait dans la presse du 21 juin. Vous savez que la réintroduction des loups dans plusieurs régions de l'Amérique du Nord, d'où ils avaient disparu, ça a permis de mieux comprendre leur technique de chasse. Ils peuvent chasser sur des distances plus importantes qu'on ne le croyait et leur taux de succès est plus bas que ce qu'on avait prévu, ce qu'on pensait.
Oui.
Alors, jusqu'à tout récemment, on avait peu de données sur les techniques de chasse des loups. Ça a commencé à changer avec des observations par hélicoptère dans l'île d'Ismer. L'île d'Ismer, c'est au Nunavut. Mm-hmm. En fait, c'est près du Groenland, si on veut se situer. C'est dans le plus au nord de l'archipel arctique canadien. Donc, ça a été fait, ces observations-là, dans les années 80-90, et surtout avec la réintroduction des loups au Wisconsin il y a 30 ans. Et dans le parc national qu'on connaît bien, le parc de Yellowstone, qui est situé au Wyoming. Et ça a été fait il y a 20 ans. On est rendu au point maintenant où les loups pourraient être sortis de la liste des espèces en danger partout, aux États-Unis. En fait, c'est uniquement une question de bureaucratie.
Ah oui?
Oui, c'est étonnant. Hein? Beaucoup de gens pensent qu'une meute de loups peut tuer n'importe quel animal. Et c'est loin d'être le cas.
Ah oui?
Si la proie est en santé, elle est généralement capable de s'en sortir vivante. Par exemple, quand un cerf de Virginie ou un orignal passe ses deux premières années, il vit généralement jusqu'à 15 ou 20 ans. Donc, les probabilités sont bonnes qu'ils survivent. Les loups ne parviennent à tuer des cervidés que s'ils sont vieux ou malades. Même les lièvres arctiques ont des techniques assez efficaces pour contrer les loups. Ils remontent les pentes, ce qui leur donne un avantage de vitesse vu le poids des loups. Alors, peut-être même que les loups peuvent sentir la maladie. On dit même, par exemple, le cancer chez leur proie. Il est frappant de voir la distance parfois considérable que les loups doivent parcourir avant de se mettre finalement quelque chose sous la dent.
Puis est-ce que ça vaut la peine de parcourir autant de distance?
Bien, le taux de succès varie considérablement selon l'espèce chassée et le moment de l'année. Quand il y a beaucoup de neige, par exemple, bien, les cervidés sont désavantagés. On s'en doute, hein? Alors, quand les cours d'eau ne sont pas glacés, ils peuvent se réfugier car les loups chassent mal en nageant. Avec le caribou, le taux de succès est difficile à calculer. Quand une meute de loups attaque une horde de 100 caribous et qui tue un jeune caribou, le mathématicien, là, est-ce que c'est un taux de succès de 100% ou un taux de succès de 1%. Voilà. Alors, je dirais qu'en général, les loups réussissent à se nourrir entre 7 et 30% des fois où ils attaquent.
Oh.
Les dernières avancées dans les connaissances des biologistes nous disent que le nombre idéal de loups pour une attaque est de 4. 4 loups pour un cerf. Au-delà de ça, Les loups supplémentaires ne font pas grand-chose. Ils ne font que bénéficier. C'est ça, exactement.
Mais ils mangent.
Ils bénéficient d'un repas sans avoir fourni d'efforts.
Le tout, c'est que ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont là.
Voilà. Alors, pour les bisons, là, c'est une grosse proie, hein? Proie la plus difficile pour les loups. Ça semble être entre 9 et 13 loups. La meute dont on a besoin. Ceci dit, les loups qui chassent sont souvent accompagnés de jeunes loups qui semblent observer la traque. Probablement pour... Probablement pour affiner leur instinct, pour apprendre, un peu comme on disait tout à l'heure avec les étourneaux. Là. Alors, il arrive aussi plus rarement que les jeunes soient lancés à la poursuite des proies et que les loups adultes tendent alors une embuscade. Est-ce que certaines meutes ont des stratégies différentes? Bien, ça, c'est une grande question à résoudre. Bien, pour le moment, on n'a pas suffisamment de données pour répondre à cette question.
Est-ce que les techniques, quand même, de chasse, elles diffèrent?
De celles des autres.
Oui.
De celles des autres prédateurs.
Oui.
Bien, les félins tendent généralement à traquer leur proie et à lui tendre une embuscade. Leur morsure est généralement mortelle. Les canidés, ils s'accrochent à leur proie, et l'immobilisent et puis ils la tuent. Ils vont, par exemple, s'accrocher avec leurs dents au nez d'un cervidé, d'un cerf.
Ah oui?
Et bien, c'est épuisant pour eux autres, hein, parce qu'ils sont obligés de le traîner. On a vu des loups faire une sieste de plusieurs heures pendant que leur proie agonisait auprès d'eux. Le combat des loups avec leur proie est plus long que celui des autres prédateurs, ce qui augmente le risque qu'il meure. À un certain point dans la chasse, quand le loup fait face à une proie isolée qui a cessé de tuer, il doit décider si ses chances de succès sont plus élevées que celles de se faire tuer par sa proie.
Ouais.
Une espèce d'équilibre. Est-ce que les loups tuent sans avoir faim?
Moi, je dirais que non, mais je sais pas.
On a souvent évoqué...
Il y a des hommes qui font ça.
On a souvent évoqué ce qu'on appelle le massacre excessif, excessive killing. Des loups tuent et laissent leur proie à moitié manger. Les loups sont programmés pour tuer. En situation d'abondance, ils tuent probablement un peu plus que nécessaire. On a vu des loups revenir sur une proie à moitié dévorée, et ça, c'était en situation de disette. Les loups sont des machines à tuer pour manger, pas à tuer pour tuer. Donc, essentiellement, pour se nourrir.
Okay.
Quelles sont les proies les plus inusitées des loups? Bien, on a trouvé des traces de loups ayant chassé des sangliers, des castors, des phoques même, qui se trouvaient trop loin de leur trou dans la glace, donc qui devenaient des proies faciles. Mm-hmm. Et même, ça c'est étonnant, des saumons dans les rivières, où il y en a beaucoup, un peu à la façon des ours hein, qu'on a vus oui. sur le bord, de, oui. Qui finissent par en attraper un. Ben, la même chose pour les loups. Alors, les loups sont-ils une menace pour l'homme? On a toujours pensé que oui, hein? Ben, il y a quelques cas de loups qui ont attaqué les hommes. L'un en Alberta par des loups qui étaient régulièrement nourris par les touristes. Donc, ah. évidemment, à ne pas faire. Il y en a un autre en Alaska, une attaque mystérieuse contre une joggeuse. Il y a aussi des cas d'enfants dans des collectivités très pauvres en Inde qui ont été attaqués par des loups. Mais c'est certainement un cas de disette extrême. C'est parce que des loups étaient complètement affamés.
Il n'y avait pas d'autre choix.
C'est ça. Donc, c'est un texte de Mathieu Perrault qui est paru dans la presse du 21 juin.
Passionnant.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit que le dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups ont regardé vers Paris. Croatie, de Germanie, les loups ont regardé vers Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris. Et Black, il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, oh, 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 de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris, oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre soir de Grenelle. Et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loup, oh, oh, sans loup sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par Ivry, sans loups sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, sans loups sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, loup, oh, oh, les loups ont envahi Paris. soit par ici, soit par Évry. Les loups ont envahi Paris, cessé de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cent faire carousse, liesse et bonbons dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, oh, 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 les loups sont sortis de Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, les loups.
Alors, un beau merci à la voix qu'on n'entend pas cette semaine de Marie qui a choisi cette pièce, Les loups sont entrés dans Paris.
Absolument superbe.
De Serge Reggiani.
Quelle belle interprétation aussi. Hein?
Tout à fait. Alors, moi, je vous amène maintenant à Glasgow, la ville qui revient de loin. C'est un article paru le 4 juillet, écrit par Caroline Parent, qui est collaboratrice pour Le Devoir. Il en va des villes comme des hommes. Certaines sont vouées à une totale insignifiance et d'autres ont un destin fulgurant, enchaînant grandeur, décadence et renaissance. Prenez Glasgow, la plus grande ville d'Écosse, le tiers de la superficie de Montréal, la plus peuplée avec 600 000 habitants, la plus col bleu et la plus oui lors du récent référendum sur l'indépendance du pays.
Bien, oui.
Est-ce que Glasgow a été une ville importante?
Eh oui, dès que le royaume écossais s'unit au royaume anglais en 1707, c'est le pactole pour les marchands glasvégiens. Eh eh, par ici le tabac de la Virginie. Tant et si bien que lorsque sera déclarée l'indépendance américaine, les dix marchands feront ériger une statue, non pas de George III dans le square qui porte son nom, mais plutôt de Sir Walter Scott, un poète et écrivain écossais. Belle façon de dire au roi qu'ils le tiennent responsable de leur déconfiture. Profitant de sa situation sur la rivière Clyde et battant le fer de la révolution industrielle, la ville se transforme ensuite en un super centre de construction navale et de sidérurgie, et c'est reparti pour une autre vague de prospérité qui lui vaudra l'essentiel de son riche patrimoine architectural. Dans le tartan que forment ces rues s'alignent des masses de grès rouge et blond aussi majestueuses qu'imposantes, qui rappellent parfois celles du Vieux-Montréal. Il y a la mairie victorienne, la bourse gothico-vénitienne, la gare centrale de style Queen Anne et quantité d'autres constructions élégantes de style géorgien, édouardien ou affichant ce « Glasgow style », cet art nouveau du cru créé par un monsieur du nom intéressant de Charles Rennie Macintosh.
Oh.
Mais après la Seconde Guerre mondiale vient l'inexorable déclin. Les chantiers navals et les usines, desquels étaient sortis des ponts entiers, ferment les uns après les autres. Chômage, désespoir, gang de rue, l'Est défavorisé contre l'Ouest fortuné, on connaît la chanson. Glasgow émergera de son trou noir en 1990 grâce au titre de capitale européenne de la culture. On découvre alors sa magnificence architecturale, la vitalité de sa scène musicale et son dynamisme. D'autres événements d'envergure suivront, dont les Jeux du Commonwealth de l'an dernier. Cette année, Glasgow, ou « cher espace vert » en gaélique écossais, était finaliste au titre de « capitale verte de l'Europe ». Chacune de ces candidatures est l'occasion de donner un bon coup de balai dans la ville et de la doter de superbes infrastructures. L'une d'elles, le Riverside Museum, voué au transport, ressemble à un électrocardiogramme en trois dimensions.
Oh, c'est ça. Étonnant, ça.
Oui. Chacune de ces victoires permet aussi à la ville de redorer son blason et à ses citoyens de retrouver une fierté. Le West End, par exemple, est bordé par le Kelvin Grove Park, une formidable oasis traversée par la rivière Kelvin. avec ses villas d'époque, sa vieille université, où ont étudié des physiciens comme Einstein et Lord Kelvin. Ses cafés, ses boutiques indépendantes et ses bons restaurants, c'est le quartier le plus désirable de tout Glasgow. C'est aussi l'un des plus beaux secteurs résidentiels de style victorien d'Europe. S'intéressant à l'histoire des immeubles de son voisinage, une professeure de chimie avait affiché le fruit de ses recherches dans la vitrine d'un magasin de sa rue. Cela a éveillé la curiosité et de fil en aiguille, de plus en plus de résidents ont voulu en apprendre davantage sur leur maison.
Est-ce que c'est une idée qui a eu des répercussions?
De façon étonnante.
Ah oui?
De cette initiative née il y a 20 ans, il a résulté un livre, des visites guidées du quartier dans le cadre du West End Festival et surtout une volonté des citoyens d'entretenir tant leur résidence que leur milieu de vie. C'est une ville vivante, il s'y passe toujours quelque chose, dit Sébastien Dénommé, un Montréalais rencontré au café Avenue G, dont il est le gérant. Par exemple, dans une vieille église transformée en pub, il y a le midi ce qu'on appelle « a play, a pie and a pint ». La pièce de théâtre dure 25 à 30 minutes, c'est le play. On mange un pâté, a pie, et on boit un pot, a pint. C'est parfait pour l'heure du lunch des travailleurs. Quelle bonne idée pour redonner une vocation aux églises mal aimées. De bonnes idées, il en pleut. Au centre-ville, la rue Buchanan, le fameux Style Mile est piétonne. Des promeneurs peuvent ainsi admirer à loisir de beaux spécimens architecturaux. Dans l'Est, City Halls et le vieux marché aux fruits ont été reconvertis en salles de concert. C'est d'ailleurs dans un entrepôt désaffecté du quartier de Finiston qu'un autre projet prometteur verra le jour en septembre prochain, Let's Eat Glasgow. Fondé par deux restaurateurs, le festival réunira les meilleurs chefs de la ville et les producteurs du pays le temps d'un marché pop-up. Glasgow n'est pas parfaite, tant s'en faut. Il y a de vilains trous dans sa trame. On y décrit les inégalités sociales et l'espérance de vie de 7 ans inférieure à la moyenne nationale. Mais il semble bien que les Glasvégiens se prennent en main et n'attendent pas que les idées viennent.
C'est joli comme nom, Glasvégien.
Oui, hein? Wow. Caroline Parent, qui a écrit l'article, s'est rendue à Glasgow à l'invitation du Glasgow City Marketing Bureau. Et c'était un article paru le 4 juillet dans Le Devoir.
Écoutez, Kiosque Magazine.
Bon, eh bien, je vous avais promis que j'allais vous parler d'un article écrit dans la presse, qui est sorti dans la presse du 13 juillet 2015 sur la grille du Fresne, parce que s'il est un sujet brûlant en ce moment,
oui.
Voilà, c'en est un.
Oui.
Et c'est écrit par Philippe Mercure, et c'est le compte-rendu d'un combat. Donc, la guerre à la grille du Fresne est déclarée, et les dernières nouvelles du front semblent prometteuses. C'est rigolo parce que le début de l'article, il commence avec un point d'exclamation. Il y a de la grille, point d'exclamation. Et c'est la première réaction de Vincent Peck, qui est étudiant en microbiologie, et vous voyez qu'elle est très enthousiaste. Il évalue que le piège qu'il vient de décrocher d'un arbre du quartier Villeray contient entre 50 et 75 agrilles du frêne qui ravagent les arbres de la métropole. Alors le professeur Robert Lavallée, qui est chercheur en gestion des ravageurs forestiers, dit qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Le piège, à l'étape du test, fonctionne. Mais il y a quand même une ombre qui passe dans son regard quand il voit la masse de coléoptères qui sont morts, empilés les uns sur les autres, et il dit « Il y en a plus que ce qu'on souhaitait avoir, car pour ces arbres, c'est clair, il est déjà beaucoup trop tard. » La presse donc a accompagné M. Lavallée et son équipe de 7 chercheurs la semaine dernière, et lors de leur tout premier relevé de piège à Agril du Fresne. À 15 endroits à Montréal, l'équipe a installé une série de 7 pièges dans la cime des arbres. 5 d'entre eux sont conçus pour faire tomber l'Agril dans une poudre constituée d'un champignon spécial qui porte le doux nom de Boveria bassiana. Les insectes peuvent se libérer du piège, mais ils en ressortent ouverts de ce champignon qui tuera l'Agril au bout de quelques jours. Entre-temps, les agrilles infectées auront pu transmettre le champignon mortel à d'autres individus. Les deux autres pièges, eux, ne laissent aucune possibilité d'évasion. Ils sont identiques aux autres et ils servent de témoins pour vérifier l'efficacité des leurs. Les résultats semblent prometteurs. Les pièges sont remplis d'agril. Surtout, ils ne contiennent pratiquement pas d'autres espèces, ce qui limite ce que les chercheurs appellent les dommages collatéraux. Chaque agril récolté dans les pièges va être disséqué et fera l'objet d'analyses biomoléculaires parce que les chercheurs de l'INRS veulent vérifier combien d'entre eux sont infestés par le champignon. Alors évidemment, leur objectif, c'est de ramener l'équilibre et de lancer un champignon aux trousses de l'agril qui vise à aider la nature à retrouver son équilibre. Parce que, en effet, en Asie, d'où vient l'agril du frêne, les arbres ont une résistance. Il y a des prédateurs, il y a des parasites, il y a des maladies. Le système, à ce moment-là, en Asie, il est en équilibre. Mais le problème qu'on a ici, c'est que l'insecte est arrivé exempt de ses ennemis naturels. Et c'est pour ça qu'on a cette explosion absolument catastrophique. Pour l'instant, il n'est cependant pas question de placer des pièges à champignons partout dans les métropoles. Les chercheurs ne font que vérifier s'ils sont efficaces. Mais même si la ville ou une autre entité d'ailleurs voulait les déployer à grande échelle, il y resterait bien du travail à faire. L'une des contraintes, c'est que le champignon avec lequel on travaille est considéré comme un microbe. Alors il y a tout un processus d'homologation qui est géré par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada, qui est logiquement lourd. Et si demain matin, une entreprise voulait faire cette homologation, il faudrait au moins 2 ans pour que le produit soit disponible. Alors, une autre possibilité est offerte, c'est une guêpe contre l'agril.
Ah oui.
Pendant que Ressources naturelles Canada cherche à combattre l'agril avec un champignon, la ville de Montréal, de son côté, étudie la possibilité de lancer de toutes petites guêpes à ses trousses. La guêpe en question, qui porte le nom de Tetraticus planipennis.
Oh, ça va
facile. J'avais hâte que tu le lises.
Elle pond ses œufs dans les larves d'agril et qui finissent donc par littéralement manger de l'intérieur. Pour l'instant, les chercheurs en sont au stade de projet pilote afin de tester l'efficacité de la méthode. Parce que, ça c'est mon commentaire personnel, on n'a pas forcément envie de voir une armée de petites guêpes qui nous piqueraient peut-être aussi. Donc ça, c'était un article de la presse du 13 juillet de Philippe Mercure.
On peut se demander comment l'agril du frêne est arrivé au pays. Hein? En fait, est arrivé par bateau.
Oui,
Les structures en bois qui transportent des automobiles, des voitures et autres choses. Elle s'était glissée à l'intérieur et s'est répandue de cette façon-là.
Ah oui?
Par le port de Montréal.
On a beaucoup de choses qui nous arrivent comme ça par bateau. C'est bon, la mondialisation.
Ce qui est inquiétant, c'est la quantité de frênes qu'on a à Montréal.
C'est fou.
En majorité, ce sont des frênes qu'on a à Montréal.
On espère qu'elle ne va pas attaquer d'autres variétés d'arbres.
Elle peut attaquer d'autres variétés, je peux vous le dire.
On en parlera une prochaine fois, mais c'est pas joyeux comme perspective. Hein? Alors, j'ai un autre article dont je voudrais vous parler, mais je ne sais pas si je vais avoir du temps. J'ai peur que non, je suis toujours trop bavarde. Hein? 30 secondes, c'est trop court pour moi, je suis tout à fait désolée. Je vais vous le réserver pour une autre fois. Ah. Puis on va vous donner peut-être quelques petites brèves si on a du temps.
On va t'attendre.
Il fallait que j'en parle, alors plus long que ça. Ça sera pour une prochaine fois, c'est sur l'atout carbone.
Alors t'as fait ton 30 secondes.
Ah, d'accord.
Alors, je vous ai déjà parlé des grands chantiers qui ont lieu dans le monde actuellement. Et je ne vous parle pas des chantiers Turcot et du pont Champlain. Hein. Il y a autre chose que ça.
Il y a aussi des grands chantiers.
On en parlera dans 5 ans ou dans 7 ans. Non, je vous avais parlé de la Kingdom Tower, si vous vous rappelez bien. La tour de 1 km qui est en construction en Arabie Saoudite et aussi l'élargissement du canal de Panama. Aujourd'hui, je reviens avec le plus gros paquebot du monde. Saint-Nazaire. Saint-Nazaire a le seul portique, la seule grue d'Europe qui est capable de soulever des blocs de plus de 1000 tonnes. Donc, c'est un chantier naval absolument titanesque. Les mots, lorsque j'utilise, je parle de ces structures, c'est des mots du style titanesque.
Oui. Oui.
Lorsqu'il sera livré à son propriétaire, qui est la Royal Caribbean Cruise, très grande compagnie, il va être livré en 2016. Oasis 3 sera le plus grand navire de croisière au monde. Un monstre de 362 mètres de long. Pour vous donner une idée, ça représente à peu près, j'ai calculé, 4 terrains de football.
D'accord.
C'est quand même considérable. Hein? Et ça, il y a 9 mètres de tir en eau, une trentaine de pieds dans l'eau. Donc, vous avez une idée de la grandeur. Une fois achevé, Oasis pourra accueillir 6360 passagers, 2100 membres d'équipage, donc 8460 personnes.
Personne.
Actuellement, les navires de croisière, c'est 3000, 4000 personnes. Donc, c'est incroyable. C'est gigantesque.
Je pense à ceux qu'il faut qu'ils fassent la bouffe. Là.
J'ai déjà parlé et j'essaierai d'y revenir pour vous dire la quantité de bouffe. C'est absolument incroyable.
Mm-hmm.
Oasis 3 ne sera pas seulement grand, mais également un véritable bijou de technologie navale, dont les performances, la conception, la construction, ça tient véritablement d'une prouesse industrielle. Le tout en 36 mois, du début de la conception à la livraison. Dans ces délais, seuls 4 ou 5 chantiers navals au monde sont capables de réaliser des navires aussi grands et aussi complexes. Concrètement, un navire comme l'A34, c'est son nom de code sur le chantier, ça résulte de savantes modélisations numériques. Ainsi, dans le cas d'Oasis 3, on aurait fait l'intégralité des études puissance-vitesse par un ensemble de simulations qui sont suivies d'essais en bassin avec une maquette de 14 mètres.
OK. Wow. Ça, c'est la maquette.
C'est la maquette. 14 mètres.
On voudrait bien avoir
ça, à quoi ça goûte un important travail de modélisation visant à maximiser la poussée des hélices, vous imaginez, pour pousser une masse semblable, là,
mm-hmm.
tout en veillant à limiter les bruits et les vibrations qu'elles engendrent, bien évidemment, pour le confort des passagers.
Ouais.
La réglementation internationale a considérablement changé.
Ah oui? En quel sens?
Ben, avant, pour évaluer la stabilité d'un navire, on calculait la résultante d'une brèche de 11 mètres, ben, depuis le Titanic, on
oui,
sait,
j'imagine,
hein?
oui.
Une brèche de 11 mètres faite dans un compartiment. Et un navire devait contenir deux compartiments, devait être capable d'avoir deux compartiments envahis. Donc, en gros, 22 mètres, si vous voulez. Or, désormais, la Convention SOLAS, c'est pour Safety of Life at Sea, sécurité de la vie en mer, ça impose de troquer ce calcul contre une complexe analyse de probabilité. Quelles sont les probabilités que quelque chose arrive? Et ça, c'est les compagnies d'assurance, évidemment, qui l'ont dicté.
Mm-hmm.
Une chose est sûre, l'expertise des chantiers navals de Saint-Nazaire en matière de calcul de structure est de renommée mondiale. En particulier, ils sont passés maîtres dans l'art d'alléger au maximum les navires, ce qui, d'une part, vous en doutez, permet de substantielles économies, mais d'autre part, totalement changer l'ambiance à bord des bateaux de croisière. Car moins de métal, ben, ça signifie plus de possibilités d'ouverture. Auparavant, je me souviens bien, il y avait des très petits hublots, des hublots ronds, c'était minuscule. Maintenant, c'est des vastes baies vitrées un peu partout autour du navire. Donc, vous imaginez la perspective qu'on a à l'intérieur d'une cabine. Le futur fleuron de la Royal Caribbean Cruise pourra battre des records en matière de consommation d'énergie avec une réduction de 23 % de la facture énergétique par rapport aux premiers Oasis. 23 % Et la moitié de la consommation énergétique d'un navire de croisière concerne d'autres postes que la propulsion. C'est pas juste pour pousser le navire.
Ouais.
Vous imaginez la climatisation ou encore l'éclairage, les pompes et toutes ces choses. Trouvait-il qu'une fois un navire géant conçu dans ces grandes lignes, une phase particulièrement délicate commence pour ses artisans?
Comment est-ce qu'elle est importante? Parce que les artisans, on imagine ça pratique.
Une coque de noix semblable.
Une
grosse coque de noix, dont la difficulté d'aménagement a rendu de la table à dessin totalement obsolète.
C'est ça.
Autrement, auparavant, c'était fait sur une table à dessin. Maintenant, c'est une conception assistée par ordinateur. C'est le dernier cri permettant de décrire en détail la forme de 470 000 pièces de métal pour la coque et de 87 000 objets. Tous décrits en détail, gaine d'aération, mécanisme d'ascenseur, jusqu'au moindre boulon y est décrit dans l'ordinateur. Et le tout réparti dans 20 000 fichiers, et ça permet de travailler 200 à 300 personnes qui y travaillent. Même le stylo du capitaine est décrit dans la maquette en termes de volume, de matériaux et de coefficients. C'est incroyable comme calcul, hein? Sans oublier la prise en compte de la directive internationale qui s'appelle « Safe Return to Port », qui depuis 2010 impose qu'en cas d'incendie dans un compartiment, une vingtaine de fonctions considérées comme vitales doivent être assurées afin que le bateau puisse rentrer au port en sécurité. Donc, vous imaginez, dans une traversée transatlantique, il faut que ça soit pris en considération. Pour l'heure, la maquette virtuelle d'Oasis est encore sur le métier. De fait, et ça c'est étonnant, contrainte de temps oblige, le chantier débute alors que la phase de conception n'en est qu'au tiers.
Ah oui, oui.
Étonnant, hein? Bizarre, la mise à flot est prévue pour mai 2015. Bon, en principe, c'est la mise à flot, ça c'est pour les tests. Elle sera suivie d'essais en mer en février 2016 pour une livraison au printemps suivant. Le chantier, c'est une véritable ruche. Ça fait 850 ouvriers, techniciens. Les ateliers, ils ont découpé les formes des 700 panneaux métalliques. Je vous dis, les chiffres, je pourrais vous en citer, c'est véritablement une ruche et c'est quelque chose d'incroyable. J'essaierai de vous donner d'autres informations parmi des brèves. C'est un chantier absolument incroyable avec une chute d'un boulon qui vient de tomber de notre chantier. Alors, c'était un texte de Mathieu Grousson qui paraît dans Science et vie hors série.
Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendu droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal écouter le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons. viendrai à Montréal. Me marier avec l'hiver, me marier avec l'hiver.
Alors nous revenons à Montréal par Robert Charlebois. D'ailleurs, je pense que le port de Montréal va s'ajuster justement pour recevoir des bateaux de croisière bientôt. Hein?
Oui. Tant mieux.
Alors, moi, je vous amène ailleurs qu'à Montréal, par contre. On va essayer d'apercevoir des aurores boréales. C'est un article qui s'appelle « Pèlerin des aurores boréales ». C'est un article qui est paru dans Le Devoir le 18 juillet, donc en fin de semaine dernière, écrit par Monique Durand. C'est dans la série des articles sur la lumière. Deux fois, deux vraies fois, j'ai vu ces vastes transhumances célestes à vous donner le tournis lorsque vous retenez votre souffle parce qu'une partie du ciel se déménage dans l'autre sous vos yeux offerts.
C'est superbe.
Les couleurs, les formes, oui, mais peut-être d'abord la sensation que le tapis de la terre vous glisse sous les pieds et que la poussière d'étoiles en vous s'envole retrouver ses semblables. Une fois sur la 138, en roulant vers l'est, entre Port-Cartier et cette île, c'était le cœur de février. Failli prendre le fossé. Aurore boréale verte. Une autre fois, en Gaspésie, une nuit de Noël. Aurore boréale rose, comme les petits anges de la crèche. Ces voiles colorées dans le ciel nocturne entrent dans l'imagerie romantique exprimant la sensation du sublime, dit une historienne finlandaise rencontrée lors d'un colloque récent à Reykjavik en Islande. Le bouquet, de formidables aurores boréales, toutes récentes, remontant à la nuit du 22 au 23 juin, entre 23h et 2h, qui ont enflammé les ciels de l'Est du Québec et les réseaux sociaux, captés par la sous-signée seulement le lendemain, à la radio. Il en va de ces déménagements célestes comme des éclipses de soleil ou des pluies d'étoiles filantes. Il faut être là au bon moment quand ça passe. Cette présence-absence, élément plus sitôt paru, provoque un sentiment d'étrangeté, d'émotion vive, explique une professeure en géographie à l'Université de Bristol. Une sensation de rencontre avec l'au-delà, comme si Dieu nous revenait. Débordement de lumière comme un trop-plein. Le phénomène fascine les humains depuis toujours. Voir une aurore boréale et puis mourir, voilà l'imaginaire en train de se développer autour de cette figure de lumière. On en fait l'expérience d'une vie, dit cette même professeure. Elle compare le tourisme des aurores boréales au pèlerinage où, de tout temps, les humains ont souhaité se rapprocher d'une forme de pureté originelle en connivence avec la nature. Les aurores boréales apparaissent comme de puissants marqueurs de naturalité. En cela, dans un contexte où l'érosion de la nuit dans les zones urbanisées donne un attrait nouveau à la nuit noire, telle qu'elle existe encore dans les contrées isolées du Nord. Selon un chercheur qui s'intéresse à la nuit comme objet de recherche multidisciplinaire, ces nuits nordiques, traversées de l'éclat des aurores boréales, peuvent être considérées comme des moments d'exorciser la nostalgie et une certaine identité perdue des citadins des grandes métropoles qui n'ont plus de nuit. Alors, t'en as vu? Pouvions-nous entendre à l'aéroport de Reykjavik en février, mots répercutés en écho? Ils étaient des centaines à quitter le sol islandais ce jour-là, certains exaltés d'avoir rencontré la divinité aurore, d'autres déçus. Beaucoup de Britanniques et d'Allemands. Les attentes des pèlerins des aurores boréales sont énormes, parce que, de leur pays lointain aux lumières opaques, ils ne sont venus que pour ça, ces éclats de lumière. Ils ont déjà vu les plus magnifiques sur Internet.
Est-ce que ça apporte une nouvelle forme de tourisme? Tourisme d'observation?
Oui, tourisme hivernal même. Oui. Jusque-là, les régions nordiques étaient avant tout des destinations estivales, où le soleil de minuit constituait l'attraction. Mais depuis quelques années, certaines d'entre elles sont devenues des destinations également prisées l'hiver, où il fait noir une grande partie de la journée. Le tourisme des aurores boréales en Islande connaît un extraordinaire boom depuis 3 ans, dit un chercheur islandais. Le tourisme de la nature, en été comme en hiver, partout s'intensifie, renchérit un professeur de l'UQAM qui emmène régulièrement ses étudiants en Islande. les aurores boréales y sont devenues un élément central de l'éventail des produits touristiques. Rien de plus magique, clament les guides touristiques islandais. Thérapeutique et reposante, expérience mystique loin de la foule. Loin de la foule et du bruit, vraiment, des autobus de plus en plus nombreux déversent un peu partout dans les paysages leurs passagers en quête du Saint Graal, ce qui ne va pas sans conséquence. La présence touristique sur les glaciers l'été ou pour voir des aurores boréales l'hiver est vraiment en train de devenir un problème, car l'environnement nordique est très fragile. Il va falloir créer davantage d'air protégé et surveillé.
Et puis, dans notre Grand Nord,
oui, parce qu'on en a un, nous aussi. Hein? Au Québec, le tourisme des aurores boréales est à peu près inexistant. D'abord, parce que les infrastructures d'accueil existent peu ou pas et que les coûts du transport aérien pour se rendre là où on verrait le phénomène avec plus de certitude sont prohibitifs. Un voyagiste offre un forfait aurore boréale à 3 800 $ à Coudjouac.
Et ça, c'est chez nous, là, près de chez nous.
Ouais. Dont 6 personnes se sont prévalues l'hiver dernier. D'ailleurs, un vol au Nunavik, par exemple, coûte près de 3 000 $. À cet égard, nous sommes un véritable pays en voie de développement. Mais surtout, ajoute toujours le professeur de l'UQAM, les Québécois détestent le Nord. Ils n'y voient que climat extrême et réservoir de ressources minières. On aime mieux la Floride. Pour la plupart d'entre nous, ces migrations célestes, éblouissantes d'émeraudes et de jade, visibles dans notre sud seulement à doses très modestes, resteront inaccessibles, comme l'étoile de Jacques Brel. Mais le simple fait qu'elles existent et nous demeurent possibles en songe entretient notre santé spirituelle, pour emprunter aux mots de l'écrivain Wallace Stegner, et enrichit notre conscience. C'était des extraits de l'article « Pèlerins des aurores boréales » paru dans Le Devoir le 18 juillet et écrit par Monique Durand.
Je reviens brièvement sur le plus grand paquebot du monde. Il ne faut pas l'oublier, hein? La différence entre construire une voiture ou un avion, c'est que chaque navire géant, c'est un modèle unique. On ne peut pas prendre une copie sur d'autres. Alors, donc, il vient l'assemblage des panneaux. C'est dans un principe de construction qui a été imaginé dans les années 30 à Saint-Nazaire, dont on parlait précédemment. La précision est également l'un des maîtres mots du chantier. C'est une obligation pour ajuster au millimètre près des blocs de plusieurs centaines de tonnes. Donc, vous imaginez les grues dont on a besoin à ce moment-là. Et en fin de septembre, on attaque la pose des moteurs. De même que le troisième niveau. Au total, le navire va compter 20 ponts, dont 16 réservés aux passagers. Et les parties les plus hautes vont culminer à pas moins de 72 mètres de hauteur. Ça, c'est près de 250 pieds, hein? C'est vraiment considérable. Oasis 2, entre-temps, aurait été réellement baptisé. Il va être prêt à prendre la mer, devenant le plus gros paquebot jamais conçu au monde.
Aïe, aïe, aïe.
Bon, moi, je vous avais promis une petite suite à mon article sur le langage. Alors, on va parler maintenant des dauphins. Eh bien, on parlait des orques tout à l'heure, et les dauphins n'ont rien à envier aux orques, parce que des chercheurs voulaient vérifier que les dauphins étaient capables d'interpeller un compagnon par un son précis. Alors, ils ont donc capturé, avant de les relâcher une fois l'expérience terminée, des paires de grands dauphins en Floride. Ensuite, ils ont séparé les couples pendant une centaine de minutes. Eh bien, les dauphins pouvaient s'entendre même sans se voir, ce qui ne les a pas empêchés de communiquer et de même s'interpeller. Et l'analyse des appels prouve que chaque animal utilise un son qui lui est propre, mais qu'il peut également imiter celui de son compagnon, surtout lorsqu'il s'agit d'une mère et son petit. Mmh. Alors cela montre bien qu'ils veulent se faire entendre d'un individu précis. Et il se pourrait même que les dauphins produisent des sons ayant la signification d'un témoignage d'affection.
Oh, c'est magnifique, ça.
C'est mignon, n'est-ce pas?
Oui, oui. Eh bien, on vous remercie de votre présence. On essaie de vous présenter des sujets le plus variés possible. Le voyage, les animaux, on se promène un petit peu partout. Hein? Eh bien, merci à Mathieu Tessier pour la mise en onde, pour son sourire, pour ses signaux, pour tout, pour être là, quoi. Et merci à Yvan Deslauriers et à André qui vient nous voir une fois de temps en temps.
Oui, on te souhaite bonnes vacances.
Merci beaucoup.
Alors, vous pouvez nous rejoindre facilement au canalm.org. Écrivez-nous, on vous lit chaque message que vous envoyez, on le lit.
Oui.
On vous le promet.
Sûrement.
On a besoin de vos commentaires.
On pourrait même y répondre, en fait.
On vous souhaite une très bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. J'allais dire à la semaine prochaine, mais à plus tard.